Salut Francis, salut à toutes, salut à tous.
Salut Jean-François, grand réducteur de textes devant l'Éternel.
Alors vous êtes, vous écoutez le mandarin merveilleux, les réducteurs de textes, sur 95,4 MHz, ou alors sur je ne sais quelle fréquence du DAB+,
oui.
Mais c'est marqué. Vous verrez.
Il n'y a pas besoin.
Il n'y a pas besoin, voilà. Et si vous allez sur Internet, et j'apprends que vous êtes, nous avons pratiquement deux fois plus d'auditeurs sur Internet que sur les ondes hertziennes. Voilà.
C'est extraordinaire.
Et il y en a beaucoup. Bon, alors, donc, de la littérature, du jazz et un peu de musique classique. Francis, je vois que vous avez... Oh là là!
J'ai plein de disques!
Oh, mon Dieu! Vous avez une pile de disques impressionnante! Bon.
Alors, comme c'est une émission en direct, je choisirai, en fonction de l'humeur de l'instant, quel musicien nous
faisons. Bon, ce qui, écoutez, on ne peut pas imaginer manière plus élégante de dire que vous n'avez pas préparé très bien votre émission. Bon, alors.
Par contre, vous, je vois que tout est bien préparé.
Oui, alors
les livres sont posés
sur la table,
sont posés, les disques de classiques sont, tous prêts. Ben voilà, mais dans le jazz, il ne faut pas nier qu'il y a une part d'improvisation. Il faut bien maîtriser son instrument et à tout moment être prêt à partir en
avant. Oui, alors vous savez, il y a une part d'improvisation, mais ceux qui pensent que c'est du n'importe quoi se trompent, mais lourdement. Le jazz est quelque chose d'extrêmement réfléchi, extrêmement écrit et extrêmement pensé. Voilà, à tel point que quelqu'un qui étudie l'harmonie ordinaire, l'harmonie classique, est totalement paumé quand il veut déchiffrer les, c'est le cas de le dire, les chiffrages d'accords de jazz.
Ouais.
Ah, voilà, bon.
Ouais. Bon, alors, c'est quoi les livres du jour?
Alors, les livres du jour, c'est alors, un livre très récent, Fer Mouche, de Vincent Almendros, que j'ai lu parce que, entre autres, il y avait une quatrième de couve de Jérôme Garcin, extrêmement louangeuse. Et en effet, c'est un excellent livre, dont je ne vous donnerai pas la fin, car... On sait tout à la dernière ligne, mais vraiment, à la dernière ligne.
Alors ça, c'est formidable.
C'est assez formidable.
Ah ouais.
Et alors, un autre livre que j'ai trouvé comme ça, en regardant dans ma bibliothèque, en gratouillant, qui est un livre de Michel Tournier. Alors, ça ne date pas d'aujourd'hui.
Oui.
Michel Tournier est dans un monde réputé meilleur depuis plusieurs années. Ça s'appelle « Le pied de la lettre ». C'est 300 mots propres. Voilà, des petites réflexions sur des mots, des expressions... soit qu'on a oublié, soit des mots qu'on emploie à contresens ou à faux sens, enfin tout ça, c'est très amusant. Voilà.
Alors d'accord, nous avons hâte que vous nous donniez quelques extraits, mais il faut bien commencer par la musique classique.
Il faut bien commencer par la musique classique.
Donc patience pour Michel Tournier.
Voilà, donc je vous propose d'écouter le premier mouvement du trio en mi bémol majeur, opus 1, numéro 1, de Ludwig van... Donc Beethoven, interprété par le trio Borodine, Lubalina au piano, Rostislav Dubinsky au violon et Yuli Turovsky au violoncelle.
Thank you.
Voilà, c'était un extrait du trio avec piano en mi bémol majeur, opus 1, numéro 1, de Ludwig van, comme dit le héros.
De Orange Mécanique.
De Orange Mécanique, voilà. Bon, alors...
Un peu de jazz. Hein.
Oui, plus paisible que le héros d'Orange Mécanique.
Oh, oui. Mais vous voyez, dans toute cette pile de disques que vous vous amusiez de me voir déposer sur la table, j'ai tiré le disque de Shai Maestro et de son trio, qui avait été produit par Laborie dans les années 2000 et quelques, et en regardant bien, c'est même 2005. Et vous vous souvenez, c'était cette époque assez sympa, où on allait traîner dans les jardins de Laborie, à Solignac, parce qu'en été, ils faisaient des petits concerts sur une estrade qui était installée dehors, ils avaient installé des chaises longues, bon, on buvait un petit verre de jus d'orange.
C'est vrai. Bon, allez, on se fait du mal, là.
Oui. Mais c'est drôle, parce que c'était il y a déjà presque 20 ans.
Ouais, genre, ouais.
Ah là là. le trio de Chaï Maestro, j'ai oublié de le préciser, bien sûr c'est Chaï Maestro au piano, Georges Roeder à la basse et Ziv Ravitz à la batterie. Trio très classique. Vous voyez, c'était
un trio après l'autre.
Ouais, c'est ça. Ouais. Et il est l'heure du premier livre maintenant.
Alors, Vincent Almendros, comme Nestor Almendros.
Comme Nestor Almendros.
Ouais, alors je sais peut-être son fils après tout.
Ouais, je voulais vous poser la question.
Ouais, c'était le directeur de la photographie de Jean-Luc Godard, entre autres, et lui-même a fait des films.
Oui, oui, mais pas que de Jean-Luc Godard.
Il était très connu. Enfin bon, c'est Vincent Almendros. Hein, si c'est, voilà. Donc, Fermouche, c'est aux éditions de Minuit. Alors, c'est un livre absolument remarquable. C'est l'histoire d'un garçon, d'un jeune homme, qui part avec Claire, une certaine Claire, et il va à Saint-Fourneau. Saint-Fourneau, c'est un village isolé, au milieu de rien, un trou perdu, nous dit-il, et où il faut faire 5 km pour aller à la pharmacie, enfin, etc. Et là, il retrouve, il retrouve la maison de son enfance, pas spécialement amicale, mais enfin bref, il retrouve son oncle qui a des gros problèmes de santé, il vient pour le mariage de sa cousine Lucie, qui va épouser quelqu'un du coin. Voilà. Alors tout ça est... Alors, très bien décrit, ça fait très ruralité, comment dirais-je, sans céder au charme nostalgique, mais sans non plus se moquer, voilà. Et ça se lit très facilement et on imagine bien dans quel milieu, dans quel meuble, dans quelle maison il évolue. Et donc, il est avec cette Claire. Et quand son oncle vient lui rendre visite, il voit que vous êtes arrivé. Et donc Claire descend et il lui dit « Je te présente Constance. » Bon. Et de temps en temps, dans le roman... Alors, c'est assez simple. Il va voir sa cousine Lucie, qui va épouser un homme avec lequel elle vit depuis longtemps. Enfin, bref. Mais on sent bien qu'il y a eu... Il y a eu un truc entre eux, il y a une espèce de sourde, un mélange de haine et de fascination, il y a eu un truc entre eux. Et puis on s'aperçoit aussi que donc le père du héros est mort, et aussi la mère de Lucie, donc qui est la tante du héros, il voit l'urne funéraire de sa tante, et puis il voit l'urne funéraire aussi de son père, enfin... Et là, on apprend que là aussi, il y a eu des trucs entre sa mère et son oncle. Alors, on ne sait pas quoi, mais bon. Et là, divers épisodes en attendant le mariage. Donc, ils sont venus pour le mariage. Et puis, finalement, ils ne vont pas... Et alors, oui, de temps en temps, il y a un ami qui lui téléphone, qui lui dit... Où est Constance ? Ah oui, c'est le frère de Constance. Donc, Constance, voilà. C'est le frère de Constance, il dit, mais où est Constance ? Et alors, et il répond, il dit, non, je ne l'ai pas vue, je ne sais pas où elle est. Elle ne répond pas, non, mais écoute, je ne sais pas. Où est Constance ? Et pourquoi ce mélange entre Claire et Constance ? Pourquoi la présente-t-il comme Constance, sa famille, alors qu'elle s'appelle Claire ? Et que les gens disent « Ah, Constance, on est bien content de vous voir, depuis le temps qu'il nous parle de vous, etc. etc. » Bon.
Donc
il y a un truc.
Il y a un truc, ça sous-entend qu'il a déjà parlé d'une Constance à sa famille.
Ça sous-entend que, je vous l'ai dit tout à l'heure, on saura, je vais pas vous le divulgager parce que là ce serait vraiment pas
de toute
sympathique.
Façon, on couperait ce passage au montage,
voilà,
de l'émission.
Mais je vous jure vraiment, je vous montre, Francis, vous ne voulez pas. Mais voilà, on a la clé pratiquement de tout le reste, mais vraiment à la dernière phrase et même à la dernière ligne de ce court roman qui fait,
ça c'est remarquable,
127 pages, ouais. Et donc à la page 127, eh bien on a la solution et on comprend tout le reste. Voilà,
donc
Vincent Almendros, Fermouche. Et pourquoi? Parce que à un moment Claire lui pose une question, elle lui dit écoute Laurent, il faut que tu me parles. Laurent, où est Constance ? Je la regardais, puis baissais la tête. Elle venait de faire mouche. Mmh. Donc voilà pourquoi faire mouche. C'est aux éditions de Minuit, c'est excellent. Vincent Almendros a écrit deux autres romans que je compte lire, car c'est un auteur qui mérite, non pas qu'on le suive, mais là qu'on remonte un petit peu dans le passé. Aux éditions de Minuit, donc.
Merci beaucoup, vous nous avez mis l'eau à la bouche, vous avez fait mouche.
Voilà. Bon, alors, je vous propose d'écouter le mouvement d'un concerto de Carl Philipp Emanuel Bach. C'est un des nombreux fils de Jean-Sébastien Bach, qui a fait carrière, une très belle carrière, peut-être pas aussi belle que son père, mais à son époque, si.
À son époque, il était très, très connu.
Il était très connu, il a beaucoup... Je crois qu'il a beaucoup travaillé et beaucoup séjourné en Angleterre, Carl Philipp Emanuel Bach. Voilà, donc il s'agit d'un concerto pour flûte, interprété par le Amsterdam Baroque Orchestra sous la direction de Ton Koopman. Le soliste, c'est Konrad Unteler, qui joue sur une flûte qui est une copie d'un instrument de 1740. Vous savez, il n'y a pratiquement plus d'instruments, en tout cas en état d'être joué, d'instruments en bois, une flûte clarinette au bois, etc., datant du XVIIIe siècle. Donc tout ce qu'on joue, ce sont des copies, mais c'est l'intérêt de cet instrument. Il sonne sans doute comme ça sonnait à l'époque.
Thank you.
Petit commentaire sur notre Carl-Philippe Emmanuel.
Alors, Carl-Philippe Emmanuel, oui, un personnage extraordinaire, sans doute le plus doué de tous les fils Bach, avec une production prodigieuse. Et alors, on en parlait tout à l'heure, figurez-vous que Mendelssohn, Félix Mendelssohn, qui était le je crois le petit-fils ou le petit-neveu de Moses Mendelssohn, le philosophe, et Mendelssohn avait une tante qui avait été l'élève de Carl Philipp Emanuel Bach. Et c'est grâce à elle qu'il a récupéré le manuscrit de la Saint-Matthieu de Bach qu'il a fait jouer, je ne sais plus si c'est à Leipzig ou à Berlin, et qu'il a dirigé lui-même, il avait 20 ans. Voilà, c'est extraordinaire.
Et on lui attribue le retour de Jean-Sébastien Bach auprès du grand public.
Voilà, oui, parce que alors, en fait, Jean-Sébastien Bach, l'idée fréquemment exprimée, c'est que il est tombé dans un oubli complet. Ce qui est faux, car on voit qu'il était, qu'il figurait dans un certain nombre de concerts, etc. Mais d'abord, bon, moins joué que maintenant, bien sûr, mais très utilisé du point de vue pédagogique. On utilisait beaucoup les inventions à deux et à trois voix, et aussi le clavecin bien tempéré, et aussi toute sa musique religieuse qui n'a jamais été totalement oubliée.
Alors, si je vous dis Giulietta degli Spiriti,
Juliette des esprits. Ça, c'est un film de Fellini.
Bravo, Jean-François. Alors là, je vous félicite absolument.
Voilà, Juliette des esprits.
Tout à fait. C'est un film de Fellini. Et le morceau qu'on va écouter, qui s'intitule Juliette des esprits, Giulietta degli Spiriti, de Paolo Fresu, qui est un de mes trompettistes préférés, vous le savez, et justement en hommage à Federico Fellini, donc probablement inspiré peut-être par une musique de ce film.
Thank you.
il est déjà l'heure du deuxième livre. Et mais oui, vraiment, on ne s'ennuie pas
oui,
une minute.
Oui, bah écoutez, tant mieux, c'est vrai. Bon, Michel Tournier, Le pied de la lettre, 300 mots propres, c'est en édition folio. C'est un petit folio. Et je vous jure, ça existe toujours, hein, c'est toujours édité. Ça peut se trouver. Et alors, c'est excellent parce que c'est.
Mais déjà, des mots propres, ça veut dire qu'il y a des mots qui ne sont pas propres.
Alors, 300 mots propres, oui, bah, et, on parle des noms propres.
Oui.
Mais alors, oui, donc il essaye d'en fait. Alors, il essaye et il réussit à retrouver soit le véritable sens que l'on ignore, soit des mots assez rares que l'on a oubliés. Alors, par exemple, je vous en donne quelques-uns. Parce que
oh, oui, s'il vous
plaît. Alors, par exemple, le mot « agar ».
Oui.
Agar, il était agar. En fait, à l'origine, c'est un terme de fauconnerie et ça désigne un rapace qui a été capturé trop tard pour pouvoir être dressé.
Mm-hmm.
Agar. Et le contraire, c'est nier qui est sorti du nid et que lui, on peut apprivoiser et dresser pour la chasse.
C'est pour ça que dans nier, il y a nid.
Et voilà, il y a nid, c'est bah, sorti du nid.
Sorti hein? du nid.
Voilà.
Niaiseux, disent nos amis cousins québécois.
Mais c'est encore. Oui, alors. C'est autre... Alors, tenez, le mot, on en parlait à l'instant, le mot météore, souvent confondu avec météorite. Alors, en fait, météore, ça désigne tous les phénomènes atmosphériques. Le brouillard, la pluie, la neige, etc. Les nuages. Et les météorites désignent les morceaux de pierre qui nous arrivent de l'espace.
Alors, ce que je croyais, vous voyez, vous venez de me démentir, c'est qu'on désignait, nous autres astronomes, on désignait par météore tout phénomène de poussière ou de cailloux qui rentrent dans l'atmosphère en venant de l'espace, mais qui se consument entièrement sans jamais toucher le sol. Et par météorite, quand on récupérait un bout de caillou qui avait
voilà, alors,
dont les trois quarts avaient brûlé dans l'atmosphère, mais il en restait quand même un petit
Michel
bout.
Alors Michel Tournier nous précise que certains dictionnaires maintiennent une distinction entre ces deux mots en définissant météore par le phénomène lumineux et météorite par l'objet matériel. Voilà.
Il n'a pas écrit une nouvelle qui s'appelle Les Météores.
Mais il a écrit un roman qui s'appelle Les Météores. Oui, oui, un roman qui... que d'ailleurs il n'a pas su terminer, qui est l'histoire de deux jumeaux, enfin voilà. Bon, alors, des mots, alors ce qui l'intéresse beaucoup, et ce qui nous intéresse beaucoup aussi, ce sont les mots à double sens. Par exemple celui-ci, héroïne, femme de grand courage, ou jouant le rôle principal dans un événement ou une fiction. Deuxième sens, ester diacétique de morphine, l'une des drogues les plus redoutables. Voilà. Et ça s'appelle l'héroïne aussi. Et alors.
Oui, mais il ne dit pas pourquoi.
Oui, alors.
Il s'en garde bien.
Entre déchiffrage et déchiffrement. Alors, déchiffrage, c'est quand on lit la musique à première vue. Et le déchiffrement. C'est quand on déchiffre les tablettes cunéiformes ou les hiéroglyphes
ou les codes secrets.
Ou les codes secrets, bien sûr. Et puis alors, allez, une petite... en mettant toute l'œuvre d'Émile Zola sur ordinateur, on s'est aperçu que le mot « débandade » revenait avec une fréquence inhabituelle. Il est bien vrai que la débandade, déchéance d'un individu, d'une famille, d'une armée, d'une société, reste le grand thème de Zola. Il y aurait aussi une amusante dérive érotique du mot appliqué à un fiasco sexuel. Exemple, la débandade de Don Juan. Voilà. Voilà, et puis quelques autres. Par exemple, besogne, qui vient du francique bisounia, qui veut dire soin ou souci.
Mm-hmm.
Acte sexuel, s'agissant des facultés de l'âme et de la sexualité, Montaigne oppose besogne et sommeil, tandis que Pascal compare l'acte sexuel et l'éternuement. C'est Pensée 648. Voilà, je vous laisse aller vérifier. Tout cela. Voilà. Alors, c'est plein de mots comme ça. C'est classé, bien sûr, par ordre alphabétique.
Je crois que Tournier était amateur de dictionnaires.
Alors, il écrit une courte préface dans laquelle il raconte que, justement, il dit il a chez lui des dictionnaires. Et voilà. Il dit d'ailleurs des dictionnaires. Qu'est-ce qu'il y a chez moi ? Eh ben, des dictionnaires, encore des dictionnaires. Il dit je n'ose compter le nombre de dictionnaires français et étrangers qui entourent mon labeur de leur massive muraille. Voilà. Hein, ces gros bouquins sont le prolongement de mon cerveau, un formidable supplément, tellement que sorti de la forteresse des dictionnaires où je gîte, je me sens comme décérébré. Voilà, donc écoutez, je vous conseille, ça coûte 3 francs 6 sous, et c'est très bien pour lire le soir, comme ça, avant de s'endormir, on en lit quelques-uns. Cela dit, on se laisse assez facilement piéger le soir de les sorties, et en fait, je voulais m'arrêter, puis j'allais toujours plus loin.
Et on va toujours plus loin, parce que ce sont des petits articles courts.
Voilà. Allez, juste un petit dernier pour la route. Il y a un mot que j'aime beaucoup. C'est le mot frappure.
Frappure.
Frappure. Alors, ce sont des taches qui sont faites sur un tapis ou sur une moquette par les rayons de la lune.
Ah, merci Jean-François. J'y penserai ce soir quand la...
Je serais fort étonné en regardant par la fenêtre que vous puissiez, que vous risquiez de faire... tâcher de frappure vos tapis, vu qu'on ne verra pas la lune. En revanche... nous allons écouter
Vous savez,
c'était le film d'Anatole Litvak.
Quoi ?
Aimez-vous Brahms ?
Ah oui, Aimez-vous Brahms.
Hein ? Aimez-vous Brahms, d'après le roman de Françoise Sagan. Voilà, alors Aimez-vous Brahms. Bon, là, j'ai choisi de vous faire entendre un extrait, l'Allegro amabile de la sonate numéro 2 en mi bémol majeur pour alto et piano. L'alto est un instrument qu'on n'entend pas tellement et c'est un peu dommage. Bruno Pasqui à l'alto et Jean-Claude Pentier au piano, et c'est un piano Bösendorfer pour ceux qui aiment cette sonorité-là. Thank you.
C'est sur ces quelques notes du trio de Andy Emler que nous nous quittons, car Jean-François...
Car il est l'heure de rendre l'antenne, comme on disait autrefois, à vous Cognac G. Bon, en tout cas, bonne soirée, et on se retrouve la semaine prochaine à 20h sur RTF 95.4.
Salut Jean-François.
Bonne soirée Francis, merci, et salut à toutes et à tous.
Thank you.